Attention, attention, il y a de l'opération coup de poing dans l'air, là.
La contestation marche pas, on peut toujours passer aux incendies, hein.
Voilà, il y a de la grillade de bourgeois qui se prépare, faudra pas faire les étonner.
www.libradio.org. La radio toute feu, toute flamme.
Lorsque, en début de cette année 2019, avec Luc, Julie, Pierre, Boris, on s'est dit, ça va faire 30 ans, parce qu'on fait quelque chose. On avait le choix entre faire une soirée d'anciens combattants, ou des anciens du GSSA, c'est tout été assez paradoxal, ou essayer de comprendre et d'essayer de tisser des liens entre ce qui s'est passé et ce que nous avons été capables de faire. La question qui s'est posée, que nous nous sommes posés, c'est de savoir, au moment où, comme mort, on évoque ce tremblement de terre, cette année 1989, qui a été une année particulière, on s'est posé la question de savoir s'il y a une continuité ou s'il y a des ruptures de continuité entre ce qu'a été 89 et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et en Suisse. On a fait l'évocation, on a évoqué tout à l'heure ce qui se passait en Europe de l'Est, la chute du mur de Berlin, des peuples épris de liberté qui, du coup, commençaient à franchir les frontières et renversaient des régimes qui semblaient être devenus totalement indestructibles. Aujourd'hui, on constate à travers le monde que des explosions de peuples entiers se font aux quatre coins du monde. Aux quatre coins du monde, que ce soit de l'Amérique latine au Moyen-Orient, que ce soit en France prochainement avec la grève générale, ou dans d'autres parties du monde, à Hong Kong, il y a aujourd'hui quelque chose qui est en train de se passer. Aujourd'hui même, un journaliste de la Tribune de Genève faisait une espèce d'analogie avec la vague verte du 9 octobre, je ne sais plus quand c'était la date des élections.
Du
20 octobre, voilà. Avec la vague verte. Bon, c'est peut-être tiré un peu par les cheveux, mais c'est vrai qu'il y a des choses aujourd'hui qui rappellent une remise en cause en profondeur de ce qui est. Et évidemment, de cette remise en cause, son protagoniste, d'une manière extrêmement importante, le mouvement des femmes, avec la grève des femmes du 14 juin, qui a mis dans la rue entre un demi-million et un million de personnes, il faut le dire clairement, et la grève du climat, qui est quelque chose qui pose aujourd'hui, avec la même urgence que Contratome, à la fin des années 80, juste après Tchernobyl, et que le GSSA, posions le problème d'un autre avenir. La discussion de ce soir, ce qu'on veut avoir comme discussion de ce soir, c'est de voir un peu, d'un côté, pour ceux qui, en 89, n'étaient pas encore nés, mais qui sont aujourd'hui, qui battent le pavé, qui sont en tête des manifestations pour défendre le climat, celles qui, en 89, étaient déjà une féministe contre la guerre, et qui, aujourd'hui, est extrêmement active, encore dans le mouvement anti-guerre, donc Thomas, Marielle,
Théo,
et de l'autre côté, celle qui fut, bon, je n'ai pas besoin de la présenter, Anne-Cécile, mais celle qui fut l'égérie de Contratome et qui est toujours la présidente de Contratome, et Thomas, jeune, lui non plus pas né en 1989, jeune secrétaire, un des trois jeunes secrétaires du GSSA. Et la première question, je commence peut-être par toi Théo, quand tu vois un film comme ça, quand tu vois l'évocation de ce qui s'est passé en 89, qu'est-ce que ça suscite pour toi?
Ça donne vraiment envie de recommencer ce genre d'histoire. Ça a l'air vraiment beau et ça donne envie d'entendre ces récits, d'entendre les témoignages, de voir ces images. Ça donne beaucoup de force. Moi, j'ai entendu pas mal de personnes me raconter cette époque, l'initiative il y a 30 ans, toute la campagne autour. Et ouais, ça a l'air d'être quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Et là, aujourd'hui, il y a d'autres luttes comme tu as mentionné, les luttes écologistes, les luttes féministes, les luttes anticapitalistes qui reviennent, etc., qui sont très fortes aussi. Et ouais, ça me donne vraiment envie de faire des ponts entre les différentes luttes, de construire une convergence entre les différents collectifs, entre les différentes générations, entre les différentes personnes. Et ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de contact et de communication entre les générations, entre les personnes des différents mouvements, qui se battent dans différentes causes. Et ça me donne vraiment envie, quand je vois ça, de plus partager ensemble, de plus s'organiser ensemble afin de changer le monde ensemble, quoi. Donc beaucoup d'envie et beaucoup d'espoir.
Alors Marielle, toi qui étais là en 89, qui est toujours là aujourd'hui, comment tu réagis à ce que Théo vient de dire ?
Alors, ben, je me réjouis de tout ce qu'il dit. Je réponds aussi à la question que tu as posée de la réaction en voyant ce film. Ça m'a rappelé pourquoi les raisons pour lesquelles je suis devenue antimilitariste, c'était vers 1965. J'étais journaliste, j'avais organisé un débat entre objecteurs de conscience et jeunes qui voulaient faire l'armée. Et ce qui m'avait frappé, c'était l'intelligence, la réflexion, la vue d'avenir des objecteurs contre quelque chose de figé. Et ça, je trouve magnifique, les débats qu'il y avait en 1989, toute l'intelligence de Max Fitch, de Andreas Gross, de Paolo Gerbalardi face à ce discours complètement figé de l'armée. Et alors là, justement, maintenant, on va vers des convergences, ce qui fait qu'on n'a plus notre idée, nos idées bien carrées, on s'ouvre aux autres et tout s'élargit et pour peut-être construire quelque chose encore de nouveau, de plus vaste et de encore bien plus porteur que tout ce que nous avons déjà vécu.
Merci Marielle, je me tourne vers Anne-Cécile cette fois.
Oui.
Parce qu'on laissera les jeunes terminer le premier tour de parole. Anne-Cécile, toi, égérie de Contratome, le moment, ça a été extrêmement important à la fin des années 80, donc 86, avril 86, l'explosion de la centrale de Tchernobyl. Ici, on a déjà une constitution antinucléaire à Genève. Il y a une effervescence autour du nucléaire. Je rappellerai que en 1975, le Conseil fédéral a envisagé l'envoi de la troupe contre ceux qui occupaient le chantier de la centrale nucléaire de Kaiserhaus. Aujourd'hui, on sort du nucléaire. Il y a 50 ans, c'est ceux qui ne voulaient pas entrer dans le nucléaire contre lequel on envisageait d'envoyer l'armée. Ça a été quelque chose d'extrêmement important en termes d'urgence, effectivement. Comment tu vois aujourd'hui, et je sais que tu as des critiques vis-à-vis du mouvement du climat, comment tu vois aujourd'hui les choses ?
Moi, j'ai un peu le blues, parce qu'en fait, on a vécu un engouement pour la lutte antinucléaire pendant des années contre Super Phoenix. On a fait des trucs incroyables. Et puis maintenant, ben, je pense que la lutte antinucléaire, elle n'est pas en pleine forme. Il y a plusieurs raisons de ça. D'abord, un, c'est qu'on a chanté par mot et par vœu que la Suisse sortait du nucléaire, hein, alors que dans la fameuse votation, sur l'énergie, il y a quelques temps, moi les chiffres, hein, je ne sais pas en quelle année, on a dit la Suisse sort du nucléaire, à Contratome on recevait du téléphone, alors génial, vous sortez du nucléaire, qu'est-ce qu'il y avait dans cette votation, là, on ne construisait pas de nouvelles centrales nucléaires, mais on laissait les anciennes centrales en fonction tant qu'elles sont sûres. Mais Fukushima, Tchernobyl, 5 minutes avant les explosions, eh ben, elles étaient sûres. Alors maintenant, on en est où ? C'est-à-dire que nos militants disent, mais on continue, mais la Suisse sort du nucléaire. Qu'est-ce que vous avez encore à vous agiter ? C'est bon, maintenant, on est bon. Alors, on va fermer la centrale de Mühleberg le 20 décembre, mais ça, c'était prévu depuis longtemps. Par contre, on laisse la centrale de Besnaud, qui est la plus vieille centrale nucléaire au monde, encore en fonction, avec 923 micro-fissures sur la jupe du cœur, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, bref. Et moi, elle était arrêtée depuis 3 ans, on n'était pas privé d'électricité. Tout d'un coup, alors qu'on sort du nucléaire, on remet cette vieille machine en marche. Et je me suis trouvée à Berne en disant, on va faire une monstre manif sur la place fédérale, comme on a montré, comme on en a vu là. Et on m'a dit, oh non, parce qu'il n'y aura peut-être pas assez de monde sur la place fédérale, alors on ne fait rien. Alors moi, je me suis dit, à Genève, bon, alors nous, à Genève, hein, on est vraiment le truc, on est vraiment la pointe de la lutte antinucléaire, on va organiser, au lieu de faire l'anniversaire de Tchernobyl comme chaque année, on va transformer ça en une manif contre le redémarrage de Besnaud. Hein, on n'était même pas 100 sur la place Neuve. Les journalistes ont dit les antinucléaires ont vieilli, mais ils sont toujours là. Voilà. Et on a encore un autre gars qui a dit, un autre journaliste qui a dit, c'est Anne-Cécile au micro, si elle n'était pas là, on n'aurait même pas besoin des 2 gendarmes qui suivent la manif à pied. Bon, alors voilà. Alors vous voyez, je sais pas comment, franchement, réagir, mais moi j'ai le blues. En plus de ça, il y a encore un autre truc qui vient se greffer là-dessus, c'est que maintenant, voilà que certains défenseurs du climat nous disent que le nucléaire est bon pour le climat. Le nucléaire, une chance pour le climat. Le nucléaire ne fait pas de CO2. Le nucléaire, c'est la panacée, ça va nous sauver. Mais non de bleu, quand on pense aux déchets radioactifs, quand on pense à la dangerosité du nucléaire, de la radioactivité, mais moi, franchement, je pleure. Alors, comment relancer la lutte antinucléaire? Comment faire comprendre, par exemple, il y a l'initiative du climat. Je lis le courrier, donc on explique tout, qu'on va faire tout électrique, que les voitures seront plus légères, tout ça. Le journaliste demande, mais alors vous voulez tout électrique, quelle est votre position par rapport au nucléaire? Réponse. Au comité, nous sommes partagés. Mais mince, du coup, on m'avait collé des pingouins pour l'initiative du climat, mais j'ai tout arraché. Vous vous rendez compte, ils sont partagés. Voilà, quoi, l'énergie, le truc pour les glaciers, voilà, qu'il y en a qui sont partagés. Ils sont capables de dire que le nucléaire, ben, ça, c'est bon pour le climat parce que ça ne fait pas de CO2. Alors, je suis en rage. Voilà.
Merci. Merci pour l'expression de ta rage. Je crois qu'il y a des jeunes enragés d'une autre manière. Thomas, tu es secrétaire du GSSA et tu es aussi un des activistes de la manif La Grève du Climat.
Ouais, ce qui est intéressant finalement au niveau du parallèle qu'on peut faire entre ces deux mouvements, c'est ce côté spontanéisme, ce côté lié à l'enthousiasme. Quand j'ai discuté avec les anciens secrétaires du GSSA qui m'ont précédé nombreuses années avant moi, et finalement moi ce que j'ai pu vivre aussi typiquement avec Théo et d'autres personnes dans La Grève Climat, c'est justement ce côté enthousiasme, ce côté spontanéisme où finalement on a envie de faire quelque chose, alors on le fait. Et on ne se pose pas de la question vraiment du est-ce que c'est possible, est-ce que c'est envisageable, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. On fait simplement, on a besoin d'un graphisme, on le fait, on a besoin d'une animation, on le fait, on a besoin d'organiser une manifestation dans 2 semaines qui est censée rassembler plusieurs milliers de personnes, on le fait et on réussit avec 2 fois plus de gens que ce qu'on espérait. Et c'est ça finalement qui est magnifique entre les deux mouvements. Après, pour revenir peut-être sur l'antimilitarisme, parce que c'est fondamentalement pour ça qu'on est là ce soir, je pense que souvent des personnes m'appellent ou appellent le GSSA et font bah, vous existez encore, qu'est-ce que vous faites, etc. Et c'est vrai que le GSSA a pas mal évolué de ce mouvement un peu populaire, mouvement social on peut dire finalement, qu'il était en 89. On est allé vers quelque chose de plus organisationnel, de plus associatif, de plus institutionnel. Mais fondamentalement, je pense que beaucoup de gens enterrent le GSSA alors qu'il a un impact immense sur la politique suisse ces dernières années, qu'il a eu et qu'il a encore aujourd'hui. Je vais prendre 1 ou 2 exemples. On a eu notamment l'initiative correctrice qui a l'année passée, donc qui était une initiative pour interdire les exportations d'armes vers les pays en guerre civile, donc pour l'inscrire à la dans la Constitution, suite en fait à une manœuvre de la part du Conseil fédéral qui voulait assouplir l'ordonnance justement concernant les exportations et permettre les exportations vers les pays en guerre civile. Et là, finalement, le GSSA a constitué rapidement une large alliance qui a permis de récolter en 2 mois 100 000 signatures. Et ça faisait vraiment des années qu'on n'avait pas eu une telle mobilisation de base, c'était vraiment des signatures qui étaient récoltées de manière spontanée par des personnes qui n'avaient eu aucun engagement politique avant, des personnes qui simplement avaient envie de récolter et nous contactaient pour savoir comment récolter, alors que d'habitude on a plutôt l'habitude de devoir organiser les récoltes, de devoir chercher les personnes. Et ce spontanéisme a fait beaucoup de bien et montre aussi qu'encore aujourd'hui beaucoup de gens souhaitent s'engager contre l'armée et pour une politique globale de paix, pour paraphraser le titre de l'initiative.
Tu paraphrases pas, c'était le titre, mais j'ai changé le début. Tu as changé le début. Ok, cette spontanéité, elle fait partie du mouvement en 89, à la fin des années 80. Cette spontanéité, elle est là. Maintenant, on l'a vu dans le film, Andreas Gross, à un moment donné, il dit « On ouvre des possibles, mais on ne donne pas de réponse toute faite. » Est-ce que, et ça, je m'adresse aux deux représentants des mouvements les plus jeunes, hein, par rapport à la question qu'on vous pose. Mais vous voulez quoi à la place ? Là, j'aimerais vous entendre, non pas sur ce que vous voulez à la place, mais sur cette idée qui était celle du GSSA, de dire « on ouvre ». Après, les réponses, il faudra les construire ensemble. Mais commençons par faire sauter le verrou sur le climat, sur l'armée, sur l'exportation d'armes, sur les...
Ouais, c'est vrai que c'est une question qui revient tout le temps et tout le monde est là, mais vous voulez pas ça, mais qu'est-ce que vous voulez finalement, qu'est-ce que vous proposez, quelles sont vos solutions? Et justement, nous on n'arrive pas avec un modèle exactement défini, très précis, avec un programme, parce que justement c'est pas dans nos convictions, dans notre attitude qu'on a, on ne veut pas imposer quelque chose, on n'a pas une volonté de prendre le pouvoir et d'imposer un programme très précis. On a des volontés claires, on a des valeurs claires, on a des principes clairs, et à partir de ça on veut construire quelque chose. On est plutôt aussi dans le mode d'organisation, on veut faire que ça s'organise depuis la base, d'entendre les préoccupations des différentes personnes, de quelque chose qui soit justement une organisation plus horizontale, un fonctionnement justement démocratique à l'interne, et tout ça, ça s'oppose avec l'idée d'avoir un programme qui est déjà établi, qu'on mettrait en place directement. Donc oui, il y a cette volonté d'ouvrir, de laisser les perspectives ouvertes, mais tout en ayant quand même des valeurs claires, un cadre clair, et tout n'est pas possible là-dedans. On a clairement justement une vision quand même assez précise, et donc on pourrait pas non plus à l'inverse nous réduire en disant juste on veut autre chose. On a quand même un cadre défini, et c'est la démocratie, l'égalité, la justice sociale, la justice climatique, la justice environnementale, etc. Et puis juste pour revenir aussi par rapport à la lutte antinucléaire, moi personnellement ça me semble quelque chose de fondamental aussi, et je pense que, alors je connais pas l'avis de tout le monde et je parle pas au nom de, je suis pas le porte-parole d'aucun mouvement, mais je pense que à la grève du climat Genève, on est assez d'accord sur le fait qu'on est clairement anti-nucléaire, que le nucléaire n'est pas une solution, que le nucléaire est à mettre de côté vraiment et le plus vite possible. Et en plus, la lutte anti-nucléaire est très intéressante aussi parce qu'elle elle s'axe contre l'État, et ça c'est aussi une perspective qui me semble intéressante, différente d'une partie des personnes qui luttent dans la grève du climat, parce que dans la grève du climat, il y a certaines personnes qui disent voilà, déclarer l'urgence climatique, etc. Donc c'est plutôt des revendications par rapport à l'État. Mais moi je trouve intéressant dans la lutte anti-nucléaire, il y a vraiment ce côté de lutte aussi contre quelque chose qui, comme avec le GSSA justement, contre quelque chose de fort par rapport à l'État tel qu'on le conçoit traditionnellement. L'armée, le nucléaire, c'est un peu des domaines un peu intouchables, et moi je trouve que c'est intéressant de s'en prendre à ça et de faire des liens entre ces luttes là et il y a aussi aujourd'hui des jeunes qui luttent contre le nucléaire. Je connais un collectif en France, le collectif Radiaction, qui lutte à fond là-dessus, qui fait des camps et des collectifs pour lutter contre le nucléaire en France, parce qu'en France c'est vraiment catastrophique quoi. Et donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui renaît aussi par rapport à ça. Mais oui, vous avez raison, il faut clairement qu'on fasse plus de liens.
Mais vous viendrez avec vos jeunes copains aux prochaines manifs.
Oui,
alors.
Exactement.
Il faut savoir que les vieux qui sont toujours là.
Tout à fait, faire plus de ponts.
On vous attend.
Thomas.
Ouais. Bah, la question en fait d'inventer des possibles, je la trouve très intéressante, parce que finalement ça revient au fait de remettre en question en fait ce qu'on connaît et de pas accepter les conditionnements tels qu'ils sont. C'est finalement on est conscient et consciente qu'on est conditionné par tout un tas de systèmes et tout un tas de structures, et finalement je pense que ce que fait le GSSA, ce qu'a fait le GSSA et ce que le GSSA fait encore aujourd'hui, ce que fait la grève de femmes, ce que fait la grève climat, ce que fait le mouvement anti-nucléaire et ce que font tous les autres mouvements sociaux, sociaux, c'est pas accepter les choses telles qu'elles sont, c'est pas accepter le fait qu'on nous dise qu'il n'y a pas d'alternative, que finalement on est dans la moins pire des situations, mais de se dire non, nous on remet en question les choses telles qu'on nous les impose aujourd'hui, on part du principe qu'un monde sans armée est possible, qu'un monde écologique est possible, qu'un monde sans patriarcat est possible, et finalement de remettre ces choses en question. Et je pense que c'est ça en fait aussi le sens d'ouvrir ces possibles.
J'ai l'impression de retourner 30 ans en arrière dans certaines discussions. Marielle ou Anne-Cécile pour un commentaire.
Oui, ben moi j'attends de voir comment toute la jeunesse qui est antinucléaire, comment ils vont soutenir vraiment la lutte antinucléaire et comment on va pas se retrouver. Franchement, on demande l'arrêt du budget. Hein, du temps de Superphénix, on était 3000 pour demander l'arrêt du budget. Maintenant, le budget est aussi près que Superphénix l'était, hein, septembre. On convoque une manif devant le consulat de France pour demander l'arrêt du budget. On est 35. Heureusement que le consulat était fermé, parce qu'alors ils étaient morts de rire. Voilà les jeunes voix qui demandent l'arrêt du budget. Vous rendez compte, 35 gars qui demandent l'arrêt du budget. Voilà. Alors,
le rendez-vous est donné.
Voilà. Bon,
le rendez-vous est donné, Marielle.
Oui, alors, moi, c'est un peu le contraire. Disons, le mouvement féministe en 89, c'était pas grand-chose. Bon, nous étions là, nous étions les groupes de femmes à nous mobiliser auprès de nos camarades, dont beaucoup avaient fait de la prison pour objection de conscience. Le groupe femmes de SSP, VPOD, s'était beaucoup mobilisé. Mais bon, on était 5 ou 6 dizaines peut-être. On avait les maires courage en ont ras le képi. On avait bien rigolé en faisant cela. C'était une lutte joyeuse, sympathique, mais nous étions minoritaires. Or, bon, le mouvement, les féministes se sentaient tout le temps minoritaires, de moins en moins de féministes, croyons-nous. Après 91, bon, ça tombait doucement. Dans les années 2000, on disait, il n'y a pas grand, on n'arrêtait pas de gémir. Ah là là, il n'y a pas de relève, il n'y a pas de relève. Et maintenant, nous étions 70 000 selon les PFL dans la rue à Genève. Et donc près d'un million dans toute la Suisse. Donc les mouvements, ça va, ça vient peut-être, mais en ce moment, l'histoire de la convergence des luttes est extraordinaire. Ce que vous avez dit, c'est deux garçons très jeunes. On le dit aussi au collectif de la grève. Bon, ce qui me frappe beaucoup, c'est que bon, nous avons avancé dans le féminisme, mais en revanche, le mouvement antimilitariste, le mouvement pacifiste, ben, il y avait toujours moins de personnes. Hein, voilà. Et nous, les femmes, en 1991 et maintenant en 2019, nous avons fait des manifestes, des revendications. Là, on en a 19, notre manifeste pour le 14 juin, et il n'y a rien d'antimilitariste. On ne s'opposait pas à l'armée. En revanche, je pense que tout ce qui était, en nous opposant très très vigoureusement au patriarcat et au capitalisme, nous sommes forcément contre l'armée, c'est une évidence. J'ai questionné en vue de ce débat plein de jeunes femmes autour de moi, mais c'est dans notre adrénaline d'être contre la guerre et contre l'armée, me répondent-elles. Bon, mais je trouve que ça serait mieux de le dire. ADN, excusez-moi. Oui, ça nous donne un peu d'adrénaline.
Voilà.
Mais voilà, mais je pense que c'est dommage de ne pas le dire. Et moi, je m'engage en cette soirée anniversaire d'essayer d'amener les revendications militaristes spécifiquement dans nos prochaines revendications. Ça, c'est une chose que je vois des têtes de mes camarades qui hochent positivement.
Merci Maria. J'aimerais vous donner la parole encore à vous quatre pour clore, et après on continuera en haut autour de l'apéro auquel vous êtes tous et toutes conviés. Alors je ne sais pas qui veut commencer. Thomas?
Ouais. Non, moi ce que je trouvais assez intéressant, c'est qu'évidemment il y a beaucoup de personnes qui ont évoqué la question des mouvements sociaux, quand est-ce qu'ils naissent, quand est-ce qu'ils meurent, quand est-ce qu'ils apparaissent, etc. Et effectivement, on ne peut pas inventer un mouvement social. On ne peut pas dire bah, maintenant j'aimerais qu'il y ait un mouvement là-dessus et puis il se produit. Un mouvement social naît dans des conditions très particulières, avec une conscience très particulière de la population qui se construit sur un temps relativement long, parfois justement de manière relativement peu visible, et d'un coup, avec un élément déclencheur, il émerge. Je prends par exemple l'exemple du climat. Pendant des années, il y avait des manifestations climat. Depuis 2009, il y a régulièrement des manifestations climat qui sont organisées à Genève. Ben, elles rassemblaient rarement plus d'une poignée de centaines de personnes. Et d'un coup, paf, on a 5 000, 10 000 personnes dans la rue pour le climat. De la même manière, pour la grève des femmes. On avait la grève des femmes en 91, puis ben, d'un coup, des petits événements, plus ou moins grands, selon les circonstances. Et paf, de nouveau, des manifestations gigantesques, une mobilisation gigantesque. Pour le nucléaire, pareil. Et pour l'antimilitarisme, pareil. C'est-à-dire que finalement, il y a des flux et des reflux, et finalement, parfois, le retour est beaucoup plus près de ce qu'on pense. Et finalement, ce que je voulais dire, et je pense que c'est aussi le sens de notre présence ici, c'est la question des convergences, et aussi la question de finalement vivre à travers un autre mouvement. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'à tout prix, on doit être attaché à son mouvement et se dire, ben, je veux absolument que mon mouvement soit de retour, mon mouvement, etc. Mais on peut, à travers le mouvement, par exemple, le mouvement pour le climat, faire vivre des revendications qui peuvent être des revendications autres, comme les revendications antimilitaristes, comme les revendications féministes, comme les revendications antinucléaires, pareil à travers le mouvement féministe, qui sont vraiment les deux gros mouvements actuellement. Et je pense que les points de convergence, on peut les voir très rapidement, que ce soit sur des sujets très concrets, par exemple sur lesquels on va voter en Suisse, la question par exemple des avions de combat qui a été évoquée tout à l'heure. Donc la Suisse prévoit, là ça va être voté durant la session d'hiver, prévoit en fait une enveloppe de 6 milliards pour acheter des nouveaux avions de combat. On ne sait pas lesquels, on ne sait pas combien on va en acheter, mais pour 6 milliards. Et finalement, les avions de combat polluent énormément. On parle de 12 000 tonnes de CO2 par heure de vol pour un FA-18, donc ce qui correspond à 2,5 fois le tour de la Terre, donc au niveau de la circonférence de la Terre, avec une voiture qui produit 4 litres au 100 km. Donc c'est absolument immense. Et là, on a un point de convergence. Mais le point de convergence avec le mouvement pour le climat est bien plus profond. C'est que finalement, la crise climatique, enfin, je pense qu'il faut parler crise climatique et pas de changement climatique ou de réchauffement climatique ou que sais-je encore, bah, va mener de façon de plus en plus intense à un manque de ressources naturelles, à des mouvements massifs de population, etc., avec un potentiel conflictuel énorme. Et je pense à ce moment-là, une politique antimilitariste est plus importante que jamais. Et avec le mouvement féministe, bien sûr, on saurait réaffirmer le rôle patriarcal qu'a l'armée. Et je pense que les deux mouvements sont aussi intéressants dans, et je m'arrêterai là parce que sinon je parle trop, dans la récupération qu'en fait l'armée. C'est que finalement l'armée sent à quel point ces mouvements sont importants, à quel point ces mouvements mobilisent, à quel point ces mouvements donnent envie aux gens de changer les choses, et essaye de les récupérer, essaye de dire bah voilà, on va rendre l'armée un peu plus féministe entre gros guillemets, en essayant de faire entrer des femmes dans l'armée, on va rendre l'armée plus écologique en mettant des panneaux solaires sur nos chars ou que sais-je encore. Et finalement, je pense que le rôle de notre convergence, c'est justement de dire non, on ne vous croit pas, nous on serre les coudes entre mouvements antinucléaires, antimilitaristes, féministes et écologistes, et on combat ensemble contre justement tout ce que vous représente votre armée, votre patriarcat, votre capitalisme. Et je pense que c'est ça.
Je vois Marielle que... Vas-y.
En 89, le 26 novembre, c'était la plus belle journée de nos vies. On était plusieurs à dire, mais c'était une des plus belles journées de notre vie, le 14 juin 2019 également. Bon, on croyait vraiment que la bête immonde, c'était la vache, une vache sacrée, elle était vraiment abattue, enfin, pas, presque abattue. On se rendait bien compte qu'on n'était pas tout à fait vainqueurs. mais seulement dans deux cantons, mais enfin, elle a été fortement attaquée, cette bête. Mais maintenant, je trouve qu'elle a des velléités de relever la tête. Et en réclamant des nouveaux milliards, comme il disait, pour ses avions, en exportant ses armes dans les pays qui tuent les civils, et là, on peut tous se sentir concernés, et dans notre solidarité internationale, en voyant tous ces problèmes de migrants, là, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment beaucoup nous toucher, l'histoire de l'exportation des armes dans les pays qui tuent les civils, et puis en attaquant le service civil. J'étais très touchée d'apprendre combien ton fils était heureux au service civil. J'ai rencontré beaucoup de jeunes qui se sentaient utiles et solidaire des gens qu'il soutenait. Moi, en tant que vieille dame, j'ai bénéficié du soutien de jeunes du service civil. Donc, on est tous concernés et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important que nous luttions contre les velléités de freiner le service civil que l'armée est en train de mettre en place en ce moment et qu'on devrait vraiment tous descendre dans la rue pour cela.
Merci Marielle. Anne-Cécile, encore un peu de gueule.
Oui, vous parlez tous d'un retour de flamme. Donc Marielle, c'est formidable. Tout d'un coup, vous êtes dépétés dans la rue. GSSA, bon. Mais nous, le problème, moi, ce qui me fout la trouille, est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait une des centrales qui pète ? Je suis sûre qu'on sera des milliers dans la rue. Hein. Mais est-ce qu'il faut attendre que le budget ou que Besnaud saute pour avoir ce retour de flamme ? Parce que vous avez des Marielle, j'étais à la manif hier, il y avait plein de jeunes Nana formidable, mais moi je peux plus lire Tintin. Vous savez, le journal Tintin, on peut lire de 7 ans à 77 ans. Hein. Alors, l'histoire, c'est que moi je peux plus lire Tintin. Il y a Hervé, il est avec moi là, vous voyez, ce monsieur. Mais voilà, nous on a pas de relève de jeunes parce que avec une fille sans armée, avec le GSSA, il y avait tous les. Donc ceux qui voulaient pas faire l'armée, qui étaient donc service civil, bien sûr, ils sont tous intéressés, mais les jeunes, là, maintenant, je vous dis, pour eux, le CO2, c'est tellement, tellement épouvantable, je comprends bien que c'est épouvantable, mais que le nucléaire est merveilleux, voilà ce que les jeunes nous disent. Alors maintenant, comment on va faire ? Est-ce que vous pouvez me fournir des jeunes ?
Anne-Cécile, attention.
Combien de personnes ?
Moi, j'ai la chance d'être en contact direct avec des gens de Contratome parce que je suis aussi dans le collectif Break Free qui lutte pour le désinvestissement des énergies fossiles. Donc, c'est aussi un combat écologiste, un combat climatique. Où il y a par exemple Olivier de Marcellus qui est grand activiste, Sébastien Bertrand, etc. Et du coup, j'apprends beaucoup de leur part et comment justement on peut relier ces différentes luttes, comment on peut agir de différentes manières. Je pense aussi, un truc qui est vraiment important, on a parlé de convergence des luttes, mais de pluralité des moyens d'action, justement. Il y a une manière d'agir, c'est de faire des grosses manifestations, c'est de faire des grèves comme la grève climat, comme la grève féministe. D'autres manières, c'est l'action directe, par exemple, contre des infrastructures précises. Il y a les actions de désobéissance civile. Et je pense qu'il faut conjuguer ces différentes actions. Il y a aussi la politique institutionnelle. Et essayer de relier ces différents moyens d'action. Et selon les périodes, comme il a dit Thomas, on n'invente pas comme ça un mouvement social tout d'un coup. Mais selon les périodes, Il y a des moyens de lutte qui sont peut-être plus adéquats pour certaines luttes que pour d'autres, mais ça ne veut pas dire à aucun moment qu'on abandonne la lutte. Il faut regarder selon la situation actuelle, selon le contexte social et historique de l'époque, comment est-ce qu'on peut faire dans les conditions actuelles pour porter ce combat, pour s'attaquer au nucléaire par exemple, pour s'attaquer à l'armée, etc. Et dans le contexte actuel, je pense qu'il y a des perspectives et il faut qu'on regarde plus ensemble comment on peut trouver là où il y a des faiblesses, là où il y a des vulnérabilités et là où on est fort nous.
Oui, mais pas sur face debout.
Non, alors il y a plein de manières d'organiser justement et l'idée de faire quelque chose d'intergénérationnel c'est qu'on doit s'organiser de plusieurs manières différentes et je pense que c'est comme ça qu'on aura de la force. Et d'ailleurs ce vendredi c'est le 29 novembre, il y a la grève pour le climat, il y a une manifestation à 19h, une manifestation nocturne, donc si vous avez après le travail, si vous travaillez, si vous faites autre chose après votre journée, vous pouvez venir à 19h au Jardin Anglais pour la grève du climat. Il y aura Thomas et plein plein d'autres mondes, et la grève du climat, plein de gens de la grève féministe, le bloc révolutionnaire, etc. Et toute la journée, c'est aussi le Black Friday, donc, qui est une horrible invention capitaliste, sexiste, patriarcale, raciste, etc. Et donc, on a aussi lancé une convergence des luttes contre le Black Friday, consigné 38 collectifs, syndicats, partis politiques, et on espère justement se mobiliser là contre et envoyer un signal fort pour montrer qu'on est unis, on est forts et fortes ensemble contre ce système qui est encore très puissant, mais on a de l'enthousiasme, on a de la force et on espère y arriver, quoi.
Le rendez-vous est pris. Merci Théo, c'est vraiment... C'est le mot de la fin. La volonté, le volontarisme, c'est extrêmement important. Maintenant, on a un ennemi aussi, c'est la résignation. L'ennemi, c'est le fait de dire, et ça m'a été renvoyé à la figure ces derniers temps, mais au fond, vous avez fait sauter le verrou de l'armée, mais le résultat, c'est quoi? C'est des guerres partout. Hein? Le monde bipolaire est tombé, mais le résultat, c'est quoi? C'est des guerres partout. Vous avez fait tomber la vache sacrée, mais le résultat en Suisse, c'est que les militaristes les plus intelligents, les plus fins, ont fait armée 21, donc ils ont fait une armée parfaite. Et moi, la question que je pose, et je la pose à tous, est-ce que le fait de savoir qu'après la chute du monde bipolaire, il allait y avoir les guerres, est-ce que ça nous aurait fait dire non, il faut continuer dans ce monde bipolaire avec un armement nucléaire à travers la planète qui est en mesure de détruire la planète 40 fois. Poser la question, c'est y répondre. De la même manière, me dire, est-ce que, puisque après le 26 novembre 89, des secteurs modernistes de l'armée en ont profité pour faire une armée avec moins de graisse et plus de muscles, est-ce qu'il fallait renoncer à la bataille qu'on a menée, bataille qui a permis au fils de Steve de faire le service civil, qui a permis à des centaines de jeunes dans ce pays de ne pas finir en tôle avec des droits communs, tout simplement parce qu'ils avaient refusé de servir un certain type de pays, un certain type de projet, ou tout simplement parce qu'ils avaient refusé d'apprendre à tuer. Je crois que faire des programmes et des projets en tirant le bilan du passé, c'est important. Mais faire des projets en se disant « mais après, voilà ce qui pourrait arriver, et donc on ne le fait pas », c'est céder à la résignation. Et ça, je crois que ce que le GCSA nous a appris et ce que ces mouvements nouveaux nous apprennent, c'est justement que le possible est à notre portée. Le possible est à notre portée, il ne faut pas se résigner. Maintenant, avant d'aller à l'apéro, j'aimerais évoquer quelqu'un qui a fait de notre possible la raison de sa vie, le sens de sa vie, François Courvoisier, qui a été un militant actif du GCSA pendant les 30 dernières années. François Courvoisier, qui nous a quittés pas plus tard que vendredi passé, jeudi ou vendredi passé, dans la nuit de jeudi ou vendredi, et pour lequel je pense qu'on peut tous avoir ici une pensée émue, également une pensée émue pour Michel Courvoisier, sa fille, qui a été une militante, on l'a vu d'ailleurs dans les images des manifestations. Ben voilà, ça a été une vie engagée pour la justice sociale et contre l'armée. Je crois que cet exemple-là, c'est un exemple pour tout le monde, pour ses petits-enfants, pour nos enfants. C'est un exemple de ce que, quelles que soient les difficultés, on peut faire tous ensemble pour que ce monde, on le change. Parce que Luc a raison, il faut aujourd'hui prendre des initiatives à l'échelle internationale contre l'armement atomique. Aujourd'hui, on se rend compte qu'un personnage comme Donald Trump, que les gens disent un peu fou, etc., il a la maîtrise des codes nucléaires. On sait que Poutine a la maîtrise des codes nucléaires, que Erdogan a probablement dans son pays 50 bombes atomiques américaines laissées sur place. Et dans cette situation, on est dans un monde aujourd'hui qui est extrêmement dangereux. Et le sentiment d'urgence qui peut exister pour le climat, je crois qu'il doit exister, et c'est une convergence possible, il doit exister sur la nécessité de désarmer massivement cette planète, parce qu'autrement, on court, Luc l'a dit, à la catastrophe. Voilà, je vous invite pour l'apéro en haut et je vous invite évidemment à militer dans le mouvement pour le climat, dans le collectif pour la grève des femmes, à Contratome et surtout les jeunes, s'il vous plaît. Hein, ici, et évidemment au GSSA. Bonne soirée et on boit un verre. Tu veux relancer ?
Le courrier est invité sur Couleur 3 comme tous les mercredis, donc c'est un public jeune, et on aura une chronique sur le GCSA et les 30 ans d'initiative. Et voilà, ce sera l'occasion de répéter à un public jeune dans toute la Suisse romande ce qui s'est dit à peu près ici.
J'ai encore deux annonces avant que vous vous leviez. La première, c'est qu'on a une brochure faite par Paolo, mais aussi Tobias, sur justement les exposés qui ont été faits en marge de cet anniversaire, donc sur ce qui a mené à l'initiative et ensuite ce qui s'est passé ensuite. Et surtout, vous êtes là dans cette magnifique salle, magnifiquement décorée par Sylvie. Donc c'est une exposition d'affiches, d'objets, de l'armée, etc. Et je pense qu'on peut l'applaudir très très fort.
Et il faut souligner aussi, pour ceux qui s'en souviennent, que Sylvie, il y a 30 ans, nous avait organisé un défilé de mode d'habits militaires recyclés. Et il en reste ici quelques-uns, et c'est très bien. Bonne soirée.